Corrigan Circus sur Alp Radio, groupe qu'on avait eu la joie et l'honneur d'avoir pour notre émission dernière de CO2.
Oui, c'était un grand voyage, cette émission. Quand même.
Transcendantale.
Oui, dans la forêt et tout, avec les petits lutins, les petits êtres de lumière, les lucioles.
Tout ça.
Tout à fait.
Dans la forêt, avec les petits lutins.
Oui.
Ah, allez, casse-toi, avançant, tu vois, on veut encore m'en coubler. Bref, ils sont tout petits, les machins. Bref.
Oh là là, dis donc, les machins. Non.
Oui,
non,
mais...
Les petits êtres.
Oui, très, très magnifique et sympathique.
Oui, tout à fait. Revenons avec nos invités au My Dear. Comment ça va, ça va toujours tout bien?
Oui, ça va. C'est un peu calme.
C'est vrai. Ok, d'accord. Arrivons sur votre actualité. Vous avez sorti un EP, Aigre Doux, qui s'appelle. Donc, c'était ça en novembre 2015.
Ouais.
C'est ça qu'il est sorti. Pourquoi Aigre Doux? C'était quoi la petite histoire là derrière? Aigre Doux.
C'est toi qui as proposé, alors c'est toi qui as su.
Ouais, c'est une fois on s'était fait la remarque, on trouvait que nos. On avait des ambiances. Enfin, non, c'est même quelqu'un qui m'avait dit une fois qu'on avait des ambiances dans nos morceaux à la fois mélancoliques et à la fois joyeuses. Puis, c'est un peu l'idée qu'on a eue. C'est vrai qu'on n'était pas très inspiré au début pour.
Ça rejoint aussi, c'était du contraste.
Voilà, ouais.
De nouveau. Moi, j'ai eu du mal au départ parce que c'est une sauce aigre douce que je déteste.
Ah,
en
t'aimes
fait.
Pas aigre douce.
Moi de même.
Pas. Lui non plus. Ouais. Ah, t'aimais pas non plus.
On n'aime pas les deux.
Mais allez savoir pourquoi. Finalement, ça convenait assez bien à l'idée générale de ce premier EP et l'idée générale de nous. Quoi. Un peu. C'est...
Ok, d'accord. Tchiki-tchik. J'aime bien, c'est lumineux. L'enregistrement de cet IP, comment ça s'est déroulé?
Alors, on est allé au Blend Studio à Lutry avec Christophe Note. Mm-hmm. C'est un ingénieur du son avec qui j'ai eu l'occasion de souvent travailler. Donc, je l'ai proposé à Jessana. Puis, elle a tout de suite été enthousiasmée à l'idée de travailler avec lui. Puis, l'enregistrement.
Ça s'est très bien passé.
Ouais,
je sais plus, on a fait quoi? 3 jours? 2 jours?
Je crois même pas. Ouais, 2 jours et demi. Ça allait très vite. Mm-hmm. Le feeling est tout de suite bien passé avec Christophe.
Ouais. Des bonnes conditions, un magnifique studio, un super piano, enfin mm-hmm. une vue aussi sur le lac, je crois,
ouais.
Dans les vignes. Non, c'était en tout cas un très bon souvenir.
Combien de morceaux dans cette IP?
Alors 5 plus une introduction.
Ok, d'accord.
Et j'ai lu quelque part que Jessana, tu prêtes ta voix. C'est possible?
Près de ma voix.
Ouais, pour d'autres des chansons ou des.
C'est vrai, t'as lu ça.
Pour d'autres. Oui, j'ai lu ça, mais peut-être.
Quelqu'un m'a volé mon identité.
Ah,
mais
mince,
écoute, alors. Est-ce que je prête ma voix, non?
Non, pour d'autres chansons. À un temps, tu le faisais peut-être avant. Avant ton projet, enfin votre projet.
J'arrive plus à rassembler ma mémoire droit à l'instant même, mais à part ça, ce serait un de mes rêves de faire un doublage de voix de Disney. Ouais.
Ah oui, non, c'était pas dans ce sens-là.
Je te verrais bien en plus.
C'est vrai, effectivement. Mais non, tu vas pas chanter avec d'autres groupes
j'ai connus fait...
aussi.
Attends, mon Dieu, j'ai fait ça.
Appelle-moi Sam, ça ira.
Oh. Si, j'ai dû sûrement faire.
Bon, voilà, ma question tombe à l'eau.
Oui.
Je n'arrive pas à retrouver quelque chose comme ça de concret. T'as une idée?
T'avais un groupe avant My Dear.
Ouais, mais c'était justement un projet. Mais est-ce
t'as
que j'ai collaboré
à Jésus Christ Superstar?
Ouais.
Ah, c'est vrai?
Oui, enfin, c'est un projet. Un gros projet chaque année.
Chaque année. C'est en biennois?
Je sais pas quoi. Mais c'est avec l'ensemble des cuivres jurassiens, puis une chorale vaudoise et jurassienne. Okay. Ils font chaque année un gros truc, 6 représentations, puis ils engagent en fait un soliste. Puis okay. L'année passée, c'était Jésus Christ.
Okay.
Ils m'ont proposé de faire tous les rôles qui me convenaient bien, parce que ça avait un côté assez schizophrénique de Jésus, Marie-Madeleine et Judas. Et je trouvais ça assez cool comme expérience. Donc, dans ce cas-là, ouais.
D'accord. Alors,
de temps en temps, je sors de contexte et je suis comme chanteuse professionnelle. Enfin, je suis engagée de ce niveau-là. Ouais. Mon Dieu, je n'arrive plus à parler.
Ouais, c'est bon. On est là pour te, t'appuyer.
Merci.
Et puis après cette EP, vous envisagez de sortir un album ?
Oui. Disons, pour commencer, on a enregistré il y a moins d'un mois deux singles. On va sortir entre fin décembre et début janvier. Ça commençait à vraiment nous démanger de ne pas sortir de nouveautés. Donc on s'est dit, allez, on se met les piles, on sort déjà deux singles. Et puis notre premier album est en préparation. Donc même il est déjà tout composé. Il ne nous reste plus qu'à fignoler les derniers détails. Il va être enregistré courant 2018 et sortir dans la même année. Mm-hmm. Donc ça avance.
Toujours au Blend Studio
Alors on n'est pas encore 100% sûr où on l'enregistrera et avec qui, mais ça reste une option vu qu'on avait vraiment une belle expérience là-bas.
Mm-hmm. Okay. Les textes sont en français et en anglais. J'ai entendu anglais, français. C'était important pour vous de garder, de mettre ces deux langues-là dans vos chansons.
Je crois, ouais. Ça amène de nouveau justement une diversité quand on joue en duo. C'est aussi un des plus gros challenges, c'est de pouvoir amener justement, enfin de faire que le public à aucun moment se dise ou ressente un manque ou genre ah là il faudrait quelque chose nana. Mm-hmm. Et du coup, effectivement, de varier les textes autant français que anglais, c'est deux langues en tout cas personnellement qui me touchent quand je chante sur ces deux langues. Ma voix aussi sonne différemment sur ces deux langues, donc ça amène aussi, comme la voix est un instrument, c'est comme si je changeais de guitare en fait. Mm-hmm. Donc ça amène aussi une variation à ce niveau-là. Puis aussi, les textes sont écrits autant par Baptiste que par moi-même. Et Baptiste, lui, il a une préférence pour justement écrire les textes en français. Donc okay. Ça a aussi amené ça, en fait.
Okay. Et en congolais, vous voulez pas essayer un jour ?
Non.
Moi, je suis assez chaud.
Mais il faudrait que quelqu'un nous écrive un texte.
D'accord. En sénégalais, je peux vous aider.
C'est vrai ?
Ouais. Je suis moi-même sénégalais.
Ah, tout de suite, comme ça, on voit pas. Mais...
Non, ça saute pas aux yeux. Mais...
Non.
Non, mais voilà, pourquoi pas une longue un peu improbable comme ça, en fait. Les cheveux de tête de
Et
encore pas tant, mais.
L'inspiration des paroles, vous prenez d'où vos inspirations ? Je sais pas, la guerre, la famille,
personnellement.
L'amour aussi.
Alors, je prends d'abord position, des textes. Personnellement, c'est toujours des choses assez privées, personnelles, quoi. Des événements qui se passent dans ma vie, un peu c'est ma psychanalyse personnelle. Donc c'est vrai que si quelqu'un va vraiment aller creuser sur mes textes et en faire des petites analyses, clairement il aura des sacrées bribes de ma vie entre les mains. Mais par contre, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, j'ai jamais trop composé des chansons d'amour. Enfin, c'est plutôt... Ouais, je sais pas. Mais c'est en tout cas toujours des choses personnelles.
C'est thérapeutique.
Ouais, c'est assez thérapeutique. Et souvent très imagé, métaphorique, blablabla. Donc, c'est des fois difficile de comprendre réellement ce que je ressens à ce moment-là. C'est cool.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas comprendre pourquoi t'as écrit telle ou telle chose plus tard, avec le recul ? Genre, oh, putain, pourquoi j'ai écrit ça comme ça ? Pourquoi j'ai dit ça ?
Je crois pas, parce que ma façon de faire, en fait, quand je compose une chanson, elle va tout à l'envers de ce qu'on peut imaginer des chanteurs. C'est que je vais d'abord tout composer ce qui est instrumental, et à la fin, je chantonne un peu des mélodies. Puis vraiment, à la fin des fins, je me dis, bon, ok, ça te procure des émotions, toute cette instrumentation-là, mais c'est quoi ? Quels sont les mots, en fait ? C'est quoi l'histoire qui doit se cacher là-derrière ? Donc, il y a justement assez un long processus de réflexion avant que vienne vraiment l'histoire avec des mots. Donc, je suis moins surprise à ce moment-là, vu que j'ai dû vraiment aller chercher, genre, ah, ok, c'est ça.
Ouais, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que généralement, enfin, les deux, on fonctionne comme Jessana l'a expliqué, on compose d'abord la musique. Mmh. Et puis souvent quand on a un nouveau morceau, donc une nouvelle ébauche avec tout ce qui est instrumental, on se départage un peu qui écrit le texte d'après celui qui est le plus inspiré par le morceau. Mmh. Donc on n'a jamais, personnellement j'ai jamais eu un thème où avant d'avoir le morceau je me disais tiens je vais écrire sur ce thème, c'est plus ce que le morceau m'inspirait. Et je crois que les deux ont fonctionné comme ça.
Ouais, ça marche bien.
J'aimerais beaucoup aborder le clip, le clip Sucre d'orge. Il est réalisé par Bastien Brand et Rangling Wills. J'ai vu ça, dis donc. Parlez-nous de ce clip. Je l'ai trouvé fantastique. Mm-hmm. Hein,
c'était une superbe expérience. Bastien a beaucoup amené, autant pour la qualité du clip que aussi pour le scénario, parce que à la base on lui a juste envoyé tous nos morceaux, puis on lui a demandé quel morceau lui parlait le plus.
Okay.
Il avait une préférence pour Sucre d'Orge. Et c'est un peu lui qui a proposé l'idée de ce parcours d'une petite fille dans une forêt avec des petites créatures spéciales et puis un côté justement étrange qui plane tout le temps.
Ouais, ce que j'aime bien dans ce clip justement, c'est que en fait, c'est un peu étrange, on n'arrive pas d'emblée. En fait, chacun doit un peu créer sa propre histoire, il n'y a pas une évidence. Après, dans un clip vidéo, c'est quand même limité à une durée de 3 minutes et quelques, on ne peut pas mettre beaucoup de détails. Mais ce qui est cool, c'est ce qui laisse justement la place aux gens d'un peu faire marcher leur imagination, quelque chose qui est, je pense, de plus en plus rare dans notre monde en ce moment. Ouais. On a tout comme ça sous les yeux. Et ce que je trouvais bien aussi, c'est qu'il y a cette ambiguïté de quel est le caractère, le personnage principal qui est finalement le gentil. Parce qu'on a toujours besoin un peu de se rassurer, de dire « Ah, ça c'est gentil, c'est le méchant ». Et je trouve que chaque personnage a en fait quelque chose, un côté menaçant, mais un côté touchant. Mm-hmm. Et ça, je trouvais très bien. Il a vraiment cerné l'histoire de cette chanson, quoi.
Et cette petite comédienne qui joue très bien son rôle, ouais. J'ai vraiment été très touchée. C'était ouais. Magnifique. C'est aussi pour trouver une petite fille comme ça. C'est quelqu'un dans votre entourage.
Ouais.
C'est...
Oui. Oui, alors c'est la fille du confrère de théâtre de ma sœur, parce qu'une de mes sœurs est beaucoup dans le théâtre.
Okay.
Et justement, vraiment son partenaire de théâtre principal. C'est sa fille, donc c'est une fille qui a aussi toujours baigné dans ce monde un peu clown de la comédie. Et moi, je l'ai connue quand elle avait justement 5 ans, 4-5 ans. Et tout de suite, j'ai flashé sur cet enfant, quoi. Elle est incroyable, elle est magnifique, elle a un truc justement magique et vrai et authentique. Et justement, au moment où on a réfléchi à un clip et puis qu'on avait un peu ces idées-là, moi, tout de suite, j'ai dit, il faut que je vous propose cette petite fille, elle est incroyable, elle va... Et elle se débrouillait, mais mieux que nous, quoi. Elle était tellement rigoureuse et tellement investie dans ce travail-là. Elle était une pro, quoi. Puis à 5 ans, c'était fou.
Ouais, en tout cas, ça m'a mis les frissons. Vraiment, bravo. Bravo. Et tout est magnifique. Il est vraiment réussi ce clip, quoi.
Merci. Moi, c'est fier. C'est des fois difficile de s'auto-congratuler.
Il faut.
Mais là, c'est bien, important.
C'est effectivement un petit bijou, je trouve. Il est vraiment, vraiment reconnaissant. Amen.
J'ai vu aussi qu'il y a des petites covers de Edith Piaf. Enfin, j'ai entendu du Edith Piaf, mais notamment avant, là, quand tu t'entraînais, voilà. Parle-nous aussi de ça. Et pourquoi Edith Piaf?
Je pense que c'est un peu le même récit que pour notre cover de Smell Like Teen Spirit. C'est que, en fait, c'est des reprises qui sont venues à nous plus qu'on a cherché à les faire. Et là, pour cette reprise de Edith Piaf, j'avais de nouveau la partie instrumentale, parce que je faisais la guitare, j'avais ce petit arpège, etc. Puis j'avais aucune inspiration. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus? Puis tout à coup, je ne sais pas comment, mais sont venus le « quand il me prend dans ses bras », puis ça allait parfaitement sur pourtant une rythmique et une harmonie totalement autre, mais ça allait bien dessus, puis ça s'est fait comme ça. Donc je pense des morceaux autant, enfin, des immenses classiques de la chanson, si on veut les refaire, je pense que ça va pas fonctionner, hein. Ça peut, mais autant que ça soit complètement autre chose.
Peut-être une rencontre, quoi.
Ouais, voilà, je pense. Si on veut forcer cette rencontre, je pense pas que ça donne quelque chose de réussi.
Okay.
Dans tous les cas, les rejouer tel quel, ce sera jamais autant intense et parfait que les versions originales. Autant se l'approprier en transformant totalement l'ambiance.
À votre sauce, quoi.
Ok, d'accord. Vous avez des projets respectifs à chacun, hein, j'ai vu. Toi, Baptiste, tu es dans de nombreux groupes, c'est bien ça?
Effectivement.
Ok, donc musique, compo.
Ouais, c'est du 7 jours sur 7. J'ai toujours aimé écouter beaucoup de styles de musique. Puis là, j'essaye de reproduire la même chose dans mon jeu, c'est-à-dire jouer dans plein de projets, dans des styles différents. Donc, c'est vrai qu'au final, je touche autant au jazz, qu'au metal, qu'à la musique électronique, au hip-hop, vraiment tout plein de styles différents. Donc là... ces temps, j'ai pas mal à faire avec plusieurs groupes de métal romans, dont Prométhée de Genève, Buried Side du Jura bernois, et puis Science of Disorder de Lausanne. Sinon, j'ai aussi des projets électroniques, un en trio avec basse et guitare. Donc, on fait vraiment de la techno, dans laquelle je joue de la batterie acoustique, mais aussi des pads. Le projet s'appelle X-Robot, puis c'est vraiment... On se met dans une ambiance... En fait, on se met dans le rôle des DJ. Donc, on joue un groove, on le fait tourner tant que les gens dansent, et puis généralement, on fait des concerts de 3 heures minimum, sans pause, ou improviser. Puis c'est vraiment... On donne tout ce qu'on a.
Moi, chaque fois que je te vois jouer, je suis toujours estomaqué par ton adaptation à tous les styles de musique, ta versatilité. Si je te dis qu'en te regardant jouer, je ressens du groove de Simon Phillips, la technique de Dave Weckl et puis une créativité à la Benny Greb, t'es plutôt content ou tu aurais imaginé d'autres batteurs que je verrais en toi ?
Alors, dans tous les cas, je suis très content parce que les trois sont des pointures, donc ça me fait plaisir que tu me dises ça. Après, c'est, pour être honnête, c'est pas non plus mes influences principales. En tout cas, Benny Greb, c'est un batteur que j'écoute beaucoup. Mais sinon, ouais, y a beaucoup d'autres batteurs qui m'inspirent aussi. Donc, c'est vraiment un mélange d'une centaine de personnes, je pense, qui se reflètent dans mon jeu.
Dans lequel tu es le plus à l'aise ?
Tu dis par rapport au style ou bien ?
Par rapport au style, ouais pardon.
Je dirais que c'est quand c'est un style improvisé, quel que soit, dans lequel j'ai des libertés et que je dois pas par exemple lire une partition ou jouer tel quel un rythme. Dès que c'est improvisé, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai l'impression de partir dans un voyage avec les autres musiciens et on collabore ensemble, on discute ensemble et puis on crée quelque chose d'après l'humeur du moment. Puis là-dedans, je suis très à l'aise. C'est un peu... Si je pouvais faire que ça, je le ferais avec plaisir.
Excellent, merci pour cette réponse. Et toi, Jessana, j'ai vu que tu as participé à une émission qui s'appelle The Voice en Suisse et en France. Est-ce que c'est juste ?
Oui, c'est juste.
Ok, pourquoi ? Enfin, connaître les raisons.
Bah, en parlant justement de différents projets, ça faisait partie d'un projet à vivre, je pense, en tant que chanteur. Ça fait partie, c'est un monde qui a pris énormément de place, le monde de la télé dans le monde musical. Mm-hmm. Et c'est vrai que la première fois que je l'avais vécu en Suisse, j'avais, je pense, 22 ans, j'étais pas encore dans une haute école, donc en gros, j'avais juste rien pour l'instant dans ma vie. Je me suis dit, c'était le premier casting que j'essayais, et pourquoi pas essayer une fois. Et après cette première expérience, j'en étais sortie pas mal déçue et pas mal abîmée un petit peu. C'est quand même un monde vraiment particulier. Et la version française m'a contactée en fait et m'a proposé de me lancer dans leur propre machin.
Ah, c'est eux qui t'ont contacté.
Ouais, voilà. Je me serais pas relancée, je pense, de moi-même, mais j'avais quand même encore vraiment des choses à apprendre et des choses à classer en moi. Des idées de peut-être quand même ce métier-là, par ce biais-là, peut-être le plus facile. Il y a beaucoup d'ego aussi, je pense. On a toujours un peu cet ego qui a envie de se mettre sur le devant de la scène. Et j'avais encore une petite voix de l'ego derrière qui était « Allez, j'aimerais quand même essayer ». Du coup, j'ai accepté de retenter cette expérience-là en France.
Bonne expérience ?
Un peu le même ressenti que la première fois. Après, ce qui était cool, c'est qu'à ce niveau-là, à ce moment-là de ma vie, j'étais déjà à la haute école, donc clairement, je m'en fichais de partir à n'importe quel moment de cette émission. J'avais quelque chose sous les pieds, donc j'avais beaucoup moins de stress. Et puis, j'ai pu vraiment aussi... j'en ai fait mon travail de bachelor aussi, un peu un journal intime de ce qu'est justement le monde de la télé, vu de la part d'un candidat. Et du coup, j'avais pas mal le regard extérieur sur tout ça, ce qui m'a aussi protégée un peu, parce que c'est vraiment pas facile, quoi. C'est un monde, moi, qui m'a un peu fané, Si j'étais restée plus longtemps, ça m'aurait vraiment pas fait plus de bien.
Vraiment dans les cadres et
ouais,
dans,
te conditionne
dans le système.
Je pense que ça rejoint un peu l'histoire de Baptiste d'apprécier en fait le monde où on a la liberté de faire ce qu'on veut. C'est exactement ça. Parce que dans un programme comme ça, tout est minuté, que ça soit notre manière d'être habillée, notre manière de chanter, etc. Et moi, je suis aussi une chanteuse musicienne qui qui vit les choses sur le moment. Alors parfois ça donne des trucs qui sont pas géniaux, mais parfois ça peut justement m'emmener dans des mondes où j'étais à, waouh, je m'attendais pas à ça. Et dans la télé, bah, y a pas de place pour ça, pour ce genre de personnage là. Non, ça leur fait peur, mais ce que je comprends totalement, parce que eux, ils ont aussi une pression de fou, que ce soit l'audimat, l'argent, enfin c'est
ouais, c'est immense production. Très très corrompu comme aussi comme
donc il y a aussi tout qui est manigord, tu sais, enfin.
Ouais, bah justement, je me demandais dans The Voice, par exemple, où il y a quand même peut-être, tu viens déjà avec un talent. J'espérais personnellement qu'ils essayaient pas de te conditionner dans tel. Enfin bon, je sais pas les émissions que je suis, donc voilà. Mais je me disais que voilà, tu arrives avec un talent, tu essayes de donner de ta personne, mais non, c'est pas le cas.
Bah, ça vient pour moi, pour mon ressenti. Après, ça reste personnel, mais j'ai vraiment eu la pression. Je suis restée pour 3 étapes dans cette émission. Et la première étape, c'est celle où ils nous laissent encore le plus de liberté. Mais j'ai déjà dû vraiment lutter pour imposer la chanson que je voulais, de la manière que je voulais. Je voulais vraiment amener quelque chose que j'aurais pu prendre en concert, quoi. Je voulais pas déjà, dès la première étape, me foutre dans un format, voilà. Mais plus on avançait et plus ça devenait étroit. Mais j'avais l'impression qu'ils ont fait leur petit bout de chemin de manipulation pour qu'on se rende de moins en moins compte qu'on est gentiment en train d'être dans une pièce de plus en plus étroite, quoi.
Il y a des gens qui sont payés pour ça.
Oui, et c'est son confort.
En fait, ça te déconnecte en fait, de ton propre totalement. Toi, en fait, ouais. Finalement.
Oui, puis c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi. Hein. Et puis, il y a une anecdote particulière, c'est que dans ces immenses locaux, ces immenses studios, on n'avait jamais le droit vraiment de se déplacer où on voulait, quand on voulait. C'était toujours, il faut être accompagné, nanana. Puis à un moment donné, je suivais un groupe, puis on s'est retrouvés devant une porte, puis on ne l'a pas ouverte. On était vraiment, pas 5-6 comme ça devant cette porte, puis on a dû attendre que quelqu'un vienne, nous ouvre la porte et nous guide. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, vraiment, notre cerveau, il est de plus en plus sur off. Quoi. Et ça, vraiment, cette image-là de la porte, c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu effrayée. Quand je me suis dit, oh mon Dieu, au secours, on devient vraiment des petits robots.
Oh là là.
Donc voilà, c'est un peu le sentiment général que j'ai eu dans ce monde-là. Mais de sortir de cette expérience-là, ce qui m'a vraiment amené quelque chose, c'est qu'en sortant, je me suis dit, bon, est-ce que tu as envie de te mettre autant la pression que ce que tu as ressenti dans ce contexte-là? Clairement, j'étais là, non. Il n'y a que moi qui peux décider maintenant en concert, genre si j'ai vraiment envie d'être stressée, si j'ai envie de me juger et de me dire « Ah, c'est nul ». Et du coup, j'arrive beaucoup plus à m'amuser. Et justement, quand on parlait de la faute sur la double croche, vraiment maintenant, quand je fais des erreurs, bah, finalement, on peut jouer dessus. C'est pas grave, c'est ça qui est drôle. C'est souvent ça qui anime aussi le public quand il nous voit interagir. Et voilà, reprendre un peu cet amusement.
Spontané, quoi.
Ouais, puis je pense que si on ne s'amuse pas... dans ce métier-là, mais on s'use beaucoup trop vite, quoi.
Et moi, c'est ce qui m'a marqué quand je vous ai vu à l'Irréversible Festival l'année passée, c'est la capacité que vous aviez, que tu avais de vous d'emmener le public dans votre univers, dans votre monde. C'est vraiment, vraiment cool. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que vous le travaillez?
C'est quelque chose qui s'est quand même travaillé aussi, je pense, avec l'expérience de jeu. Mais il y a aussi, je pense, de... Bah, on est des... Les deux, je pense, très spontanés. Ça s'est peut-être senti aussi dans l'interview. Enfin, tout à coup, je dis n'importe quoi. Et la seconde après, je sais plus ce que j'ai dit. Et Baptiste s'amuse beaucoup de ce côté-là. J'ai moi, il est bon public. Il alimente ma bêtise, parfois. Mais je pense que, quand même, rien que l'interaction entre nous deux, ça s'est travaillé. Enfin, ça s'est acquis avec les concerts.
Voilà, ouais, ça s'est travaillé avec les concerts. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est venu un peu tout seul parce qu'on a le contact facile entre les deux. J'ai l'impression que dès le premier concert qu'on a fait ensemble, on avait déjà on dégageait déjà une énergie par notre manière de jouer ensemble et puis notre complicité. Et c'est souvent ce qui nous est aussi dit en retour après des concerts, c'est surtout la complicité. La complexité aussi peut-être, mais
oui. Et à force, tu connais les réactions de l'autre aussi.
Voilà, c'est ça. C'est ça que c'est vrai qu'on l'a entraîné justement en jouant souvent parce qu'on arrive à mieux se connaître et puis à prévoir ce qui va se passer, même quand l'autre essaye de surprendre.
Il y a quand même une sacrée part d'improvisation. J'en vois sur scène parfois où peut-être vous faites tourner un peu plus une partie et ça rend le spectacle plus vivant à mon sens.
Puis on aime bien s'envoyer des pics musicales entre nous en essayant de déstabiliser l'autre.
Mais ça permet de rester aussi attentif à l'autre.
Oui, exactement.
C'est vachement important, ça.
Ouais, ça, c'est quelque chose que mon prof de chant nous avait pas mal souligné, ce truc de rester dans la tension, quoi. Peut-être que quelque chose va se passer, et puis ça, le public le ressent, et puis est tout de suite captivé.
Eh ben, on reviendra vers vous dans un petit moment, mais pour l'instant, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique hein, quand même, parce qu'on blablate, mais on voit pas le temps passer. Les fils du facteur qui viennent tout de suite sur CO2 sur Alp Radio, et puis suivi d'un autre titre Soraya Noni.
Santini.
Voilà, un truc comme ça, je sais plus, j'arrive pas à le dire. Excusez-moi. Et puis ton reportage, Laura.
Oui, tout à fait. Attention, hein, la chanson des fils du facteur, ça parle un petit peu avant. Hein. Soyez pas surpris.
Bah, hein.
Ça parle un petit peu avant que la musique commence, si jamais.
Ça va passer comme une lettre à la poste.
Oh, il est en forme. À tout à l'heure, avec les fils du facteur.
Il est pas mort. C'est lui qui a tué James Foley. Et James Foley, c'était pas lui. On sait que c'était Elvis Presley. Le vrai Foley est en Thaïlande et il s'est fait refaire les seins avec Oussama Ben Laden, qui est son cousin.
Le 11 septembre, c'était pas Al-Qaïda, on sait que c'était les Japonais. On peut entendre sur la boîte noire Banzai et puis Sayonara. L'Américain dit que c'était des Afghans pour justifier la guerre du Vietnam et implanter les McDonald's, même en Iran. La belle époque conspiration, chacun refait l'histoire à sa façon. OVNI, CIA, franc-maçon, chacun ajoute au fait sa petite version. À l'intérieur de la terre plate, ils ont planqué des reptiliens. C'est Hitler qui les a mis là. Les francs-maçons voulaient leur peau parce qu'ils ont fait les pyramides et qu'ils avaient pas le permis de construire. Et ça, les francs-maçons, bah ils aiment pas. Celui qui a tué Kennedy, ça n'est pas Lee Harvey Oswald. Son assassin, non, c'est bien sûr l'homme qui n'a pas marché sur la lune. Ils l'ont buté pour pas qu'ils disent que la théorie du complot, c'est un complot. La belle époque conspiration, chacun refait l'histoire à sa façon. OVNI, CIA, franc-maçon, chacun ajoute au fait sa petite version. Et on sait de sources sûres que Jésus était juif et qui plus est sioniste, parangon du grand Israël. Son papa était charpentier et comme par hasard après, ils ont fait fortune dans les clochers. Donc on nous cache des choses, puis on nous dit pas tout. Puis on nous cache des choses, puis on nous dit pas tout. Et moi, moi j'ai rien fait, mais j'aurais bien voulu faire péter des trucs, coller une balle à BHL. Mais après on aurait dit de moi que j'étais un agent du Mossad, infiltré par le KGB, agent double pour la CIA, qui était de même un coup des Juifs, qui était de même un coup des Chinois, qui était de même un coup des Ricains, qui était de même un coup en haut, un coup en l'air, un coup en bas, un coup en bas. Et on nous cache des choses, puis on nous dit pas tout. Puis on nous cache des choses, on nous dit pas tout. La belle époque d'inspiration, chacun fait l'histoire à sa façon. OVNI, CIA, franc-maçon, chacun rajoute au fait sa petite version. Et on nous cache des, et on nous cache des, et on nous cache des choses.
Électrique, ce n'est rien que quelques atomes crochus, ce n'est rien pour candier des faux ingénus, ce n'est rien qu'une affaire et dans l'absolu, ce n'est rien. Je ne suis qu'une jeune louve un peu timide. Des romantiques déchaînés, ce n'est rien qu'une attirance délicieuse qui me creuse quelques cernes trompeuses, ce n'est rien. J'ai beau répéter, beau minimiser. Vous êtes un empire, vous êtes un empire éphémère. vous êtes un empire. Et votre mère, ce n'est rien que quelques moments écarlates. Ce n'est rien que notre antenne acidulée, la dentelle.
Il a su concilier son métier de plâtrier peintre avec sa passion, le dessin. Une belle aventure pour Yvan Michello qui en 2010 crée une fresque de Corto Maltese ainsi qu'en 2017 une fresque de Yacari de près de 3 mètres sur la façade du collège Devinet à Clarens sous l'œil bienveillant du grand de Ribes. On va en parler tout à l'heure. Salut Yvan.
Salut.
Merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans ton superbe atelier.
De rien, ça me fait plaisir.
Parle-nous de ton parcours. Comment tu en es arrivé à ton activité ?
Depuis tout petit, je dessinais déjà. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'étais en première année d'école obligatoire. Et mon premier dessin, c'était Lucky Luke. Je l'ai fait à l'école,
ouais.
sur une feuille. J'étais tout content. Je l'ai amené vers mon père. Et je lui ai montré Lucky Luke. Il ne m'a pas cru. Il pensait que je l'avais décalqué. Et il m'a demandé de le reproduire, je l'ai refait. Et après, il m'avait dit, c'est cool, tu fais des dessins. Chaque dessin que tu fais, je te donne 5 francs. Alors là, j'ai continué à dessiner, j'ai débité les dessins. À 10 ans, j'avais déjà presque inventé des petits personnages. Et puis, je faisais des petites BD, puis je les agrafais. Ensuite, j'avais gagné quelques concours de dessin, toujours dans le thème de la bande dessinée. Et à l'école, je voulais vraiment faire dessinateur en bande dessinée. Le métier, mon père faisait peintre en bâtiment. Il m'a pas obligé de faire peintre en bâtiment, mais j'avais fait quelques stages. Ça touchait un peu la peinture. J'avais été au cours professionnel. J'avais vu qu'il faisait quand même un peu de peinture sur tableau, quelques différents agrandissements. J'ai dit, c'est sympa. J'ai fait l'apprentissage dans une entreprise ailleurs où il était mon père.
Mm-hmm.
Une fois l'apprentissage terminé, j'ai été travailler dans l'entreprise où il travaillait mon père. Et à 25 ans, j'ai ouvert ma propre société. Maintenant, on est 5. Je suis associé avec mon père. En 2010, une gérance de la région, il me demande justement un Corto Maltese. Vous arrivez à me le faire de 4 mètres de haut ?
4 mètres de haut ?
Ouais. Moi, j'ai dit oui, sans problème. mais j'avais jamais fait 4 mètres de haut. Je savais pas que Corto Maltese avait un tel impact dans la bande dessinée, parce qu'il est très connu mondialement.
Je veux dire que c'est un héros de bande dessinée.
Oui, c'est un héros. Il est très connu. Puis j'ai demandé les droits d'auteur. Il y a eu pas mal d'entraînement avant.
Oui, j'ai demandé le travail sur pour y arriver, quoi.
Alors sur le Corto Maltese, il y avait eu un mois et demi, 2 mois de travail en atelier. Une fois dessiné, c'est plus simple. Après, on a les proportions. Après, c'est très simple de le reporter sur la façade. Et une fois fini, fait la fresque, c'était, j'étais content. La maison d'édition, ils étaient super contents aussi. Elle se trouve à avenue Jean-Jacques Rousseau.
Voilà, j'allais demander à Montreux.
À Clarens.
À Clarens.
À côté du dépôt VMCV.
Pour toi, c'est quelque chose
Ouais, pour moi, c'est le sommet.
C'était un sacré challenge.
Oui, oui. Après, avec le Yakari, ça a été
justement,
deux fois plus.
Justement, en septembre, au mois de septembre, hein, c'est ça? Tu as réalisé Yakari.
Mois de juillet,
c'était
cette
juillet
année.
Oui. D'accord.
Pendant l'école, en septembre, il y a eu l'inauguration.
La rencontre avec Derib.
C'était en 2013. Oui. Il y avait un propriétaire d'une façade à Clarens. Il avait deux pignons, c'est deux. Par exemple, ça s'appelle un pignon là où on doit faire le dessin. Il m'a dit, venez à la maison pour en discuter. J'ai été chez lui, je tremblais un peu parce que c'est quand même, pour moi, depuis tout petit, c'est quand même.
Quelqu'un que t'admires.
Oui, j'admire. Pour moi, c'est le sommet, c'est le top de la bande dessinée. J'ai dit, c'est incroyable. On a discuté, lui il était d'accord de me donner les droits d'auteur. Et ça c'était en 2013. C'était 2016, il y a eu beaucoup plus de stress que pour faire le Corto Maltese. Le premier essai que j'ai fait en grand format, j'ai été chez lui. Et puis par la suite, j'ai refait une deuxième tentative en grand format. Il a corrigé aussi le Yakari, il y avait des petits trucs minimes. Il est venu aussi sur l'échafaudage pendant que je le faisais. On a dû voir les couleurs ensemble pour que ça représente bien le Yakari. On l'a fini très vite.
En trois jours, c'est
en
ça?
En trois jours. Mais une fois fini, moi, j'étais soulagé.
2,60
mètres,
précisément.
Précisément 2,60
mètres. On peut apercevoir ce que tu fais sur Internet.
Oui.
Tu as une page Facebook.
Oui, c'est sous fresque et dessin Michelo.
Je ne l'ai pas précisé avant, mais tu vas nous faire une petite démo.
Oui.
Expliquez-nous ce que tu vas nous faire.
Alors, je vais essayer de faire presque montrer... Juste faire un œil au pastel sec.
Finalement, tu touches un peu à tout, on peut dire ça comme ça. Tu touches un peu, tu expérimentes.
Là, actuellement, j'expérimente pas mal le pastel sec. Mm-hmm. J'ai expérimenté un peu l'aquarelle aussi. Mm-hmm. Mais vraiment, je pense que ce que je préfère, c'est rester au crayon. Au crayon, j'adore. Rester au crayon, faire les ombres comme les portraits... Faire les portraits au crayon, c'est vraiment...
Okay.
Parce que les portraits qu'on peut voir sur ma page Facebook, ils sont tous faits au crayon. Crayon HB, il n'y a pas besoin d'autres.
Ok. Alors, je te propose de te mettre en place.
Oui.
Et on va regarder tout ça.
Pas de souci, ça marche.
Alors.
Je prépare déjà mes pastels. Normalement, il faut toujours les essuyer. Ça, c'est des petits cubes. Là, je vais utiliser uniquement des crayons pastels. Et puis, juste une teinte un peu plus rose parce que je ne l'ai pas en crayon.
Ok.
Le pastel, c'est fait. Le pastel sec, il est fait. Non, on en met partout. Donc, c'est un peu embêtant. Mais... Donc, on va commencer par dessiner un œil. D'abord pour faire les contours de l'œil, ensuite un deuxième trait, là où sont les sourcils, là, ensuite ça au crayon, je fais d'abord au crayon, c'est juste pour me donner un petit repère parce que normalement on pourrait déjà... Je pourrais déjà attaquer avec le pastel.
Ouais.
C'est juste pour me donner un petit repère. Puis après, c'est Manon qui est la partie la plus intéressante.
Ok.
On prend déjà mettre un peu de rose ici. On va prendre la partie foncée pour faire la profondeur. Un peu plus ici. Un peu ici. Un peu là, comme ça.
En fait, tu choisis tes couleurs. C'est
vraiment des couleurs pour la peau, en fait. C'est vraiment, on voit que c'est, y a un peu de rosé pour la peau, et puis on les étale comme ça. Juste un peu là. Et puis ce qui va être joli, c'est maintenant quand je vais les. Une fois qu'on a l'œil, l'intérieur de l'œil, je le fais après. Une fois qu'on a appliquer tout ça, on prend un petit chiffon et on commence à frotter.
Okay. Ouais. Et là, ok. Ouais. Et ça se mélange.
Exactement. Bon, on va mélanger là.
Et du coup, le papier, la matière du papier a un rôle précis alors dans le projet.
Exprès pour pastel, pour pastel sec. Parce qu'il y a quand même, comme tu peux voir, il y a quand même un peu quelques trous dans sur le papier. Et c'est ce qui permet de... Je pourrais faire aussi, après je vais faire avec le doigt. Mais là... Mais on remarque déjà, on a l'impression après que c'est peint, que c'est une peinture en fait, peinte, on va dire presque à l'huile quand on regarde de plus loin. Puis ensuite on fait comme ça, et on prend l'œil. On va prendre, je vais déjà faire l'intérieur de l'œil, on va rajouter un peu de blanc. C'est quelque chose, après c'est clair, si on veut aller beaucoup plus dans le détail, ben on essaye de, quand on a plus de temps, bien sûr.
Là finalement, en quelques minutes, c'est chaud,
Ça va, on obtient déjà quelque chose en l'espace de quelques minutes. C'est clair que c'est clair, plus on attend, plus on peut rendre l'œil plus réel. Et puis après, on va juste le tracer. Et voilà, le joli, on arrive gentiment au bout.
Joli œil. Voilà. Expressif. Évidemment.
Évidemment, voilà. C'est aussi...
La signature. Hein.
La signature. Hein. Elle n'est pas venue...
C'est vrai, ça aussi.
Elle n'est pas venue comme ça. Hein. Ça fait le petit I dans le M... Le petit rond sur le i, ça fait un peu bande dessinée.
Ouais, voilà.
Et puis le petit 17, ça fait pour 2017.
Excellent, merci beaucoup. On le regarde.
C'est assez vite fait. Hein.
Mais oui, et puis c'est chouette de te voir faire. On va pouvoir d'ailleurs voir les photos sur le site internet www.alpradio.ch, également sur notre page Facebook Alpradio. Et si on veut prendre contact avec toi, on va directement sur la page Facebook Fresques et Dessins Michelo.
Ou bien même sur mon portable, qui est mon numéro professionnel, qui regroupe aussi l'entreprise, le 078 908 08 43.
On te souhaite plein de beaux projets encore.
Merci à vous tous, hein, vous êtes déplacés chez moi.
Merci pour l'accueil, salut.
Merci, salut.
Sur Alp Radio.
Eh bien, c'était notre Lolotte nationale qui faisait son petit reportage.
Oui, c'était un grand plaisir, ce reportage.
Oui. Alors, revenons à notre groupe Oh My Dear. Ouais. Alors, avez-vous des projets un peu futurs? C'est-à-dire que c'est un petit peu brut de décoffrage et désolé de ma... Enfin, je vous fais mes excuses. Vous avez sûrement des projets. On l'a évoqué un petit peu avant.
Oui, alors on va... Bah justement, on prévoit de sortir notre premier album courant 2018. Mm-hmm. L'enregistrer aussi début 2018. Niveau concert, là on est pas mal concentré sur la finition de la composition des morceaux de cet album. Alors on en fait un peu moins que d'habitude, on a un peu levé le pied. Oui. On va quand même en reprendre, justement essayer d'en placer quelques-uns de concerts en début d'année.
Ouais. Histoire de pas perdre la main.
Exactement. Et puis sinon, là on est les deux aussi investis, enfin. Je m'investis dans le nouveau projet solo de Jessana aussi. Donc là, on met aussi un peu l'accent sur ce projet. C'est pour le début de l'année.
Ouais.
Je pense que Jessana a plus à dire dessus.
Ouais, alors j'ai un peu réalisé un de mes petits rêves secrets d'avoir un projet où je ne faisais que chanter et où je déléguais tout le reste du job à quatre autres musiciens. Et justement, avec ce projet-là, là, il y a pas mal de choses qui bougent. On va normalement sortir le premier EP et vraiment, normalement, ça devrait vraiment être ça parce qu'on a la date de vernissage le 10 février à Bienne, au Singe. Donc on devrait avoir le matos à ce moment-là. Et aussi un premier clip vidéo et pour tout le mois de novembre, enfin ce mois et voir un petit peu le mois de décembre, on va faire We Make It. On va chercher un peu des fonds pour nous permettre de réaliser tout ça. Donc effectivement, ça prend pas mal de temps aussi.
J'ai quand même une petite question. Si toi, Baptiste, tu participes à l'album solo de... Désolé, j'arrive pas avec ton prénom.
Jessana,
pardon, excuse-moi.
Pas grave.
À quoi ça sert de faire un album solo?
Bah, c'est totalement autre chose, en fait. Vraiment, j'avais peur au départ, en m'éparpillant sur plusieurs projets, j'avais peur de vraiment réussir à m'investir pleinement dans chaque projet, ou alors que, bêtement, il se ressemble trop, chaque projet. Mais là, vraiment, c'est autre chose. C'est beaucoup plus pop, électro. Moi, j'avais envie d'un truc où les gens peuvent danser aussi dessus. Bah, j'adore ça. Et du coup, ouais, bah, ça amène autre chose, en fait, au monde de la musique, je pense. Même si j'ai le même batteur.
Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans My Dear, on est les deux autant investis. Donc, si un des deux n'est pas emballé par l'idée qu'un autre propose, on la laisse tomber. Donc, c'est vrai que dans My Dear, par exemple, je donne mon avis sur les morceaux, je mets ma touche. Par contre, dans le projet de Jessana, c'est elle la bosse. Voilà. Je me plie à sa volonté.
Non, c'est pas vrai.
Bon, on a beaucoup de place pour aussi donner nos avis dans
ouais,
ce projet.
Ouais, parce que bah, c'est des pros dans leurs instruments. Moi, je pourrais moins jamais dire autant bien fais cet accord-là, alors que c'est un pianiste professionnel, un batteur professionnel. Donc, ils amènent le gros de la structure. Et puis, eux amènent après leurs propositions aussi de son et d'idées, quoi. Lui, dans ce projet-là, justement, il a aussi un jeu qui est totalement différent. Il utilise, par exemple, un pad, donc batterie électronique et puis vraie batterie. Mmh. Voilà.
Voilà, merci.
Ça commence à se tendre, là.
Quelle fin abrupte.
Les prochaines dates au My Dear en concert, est-ce qu'on peut connaître les dates? Oui, t'as le temps d'avaler ton iced tea.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de date confirmée qu'on peut
donc, dévoiler.
Voilà, dévoiler. Mm-hmm. Mais il y en aura pour... disons, ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin de l'année, on ne va plus monter sur scène parce que les deux, nous sommes très pris ouais. Justement dans d'autres projets. Mais pour 2018, il y en aura.
J'espère.
Il y aura le rendez-vous avec nos nouveaux singles, normalement. Mm-hmm. On doit au moins en sortir un. C'est notre challenge en décembre, donc mm-hmm. Cadeau de Noël. Et une petite vidéo.
Avec des vidéos.
Génial.
Ouais. Et puis on peut suivre votre voilà. Actu où?
Sur Facebook, sur Instagram, sur quoi?
Nos sites internet respectifs
ouais,
aussi.
Ouais. On n'a pas un site sur mydear.ch.com pour l'instant, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on fasse. Mais vous retrouverez toutes les informations justement sur les réseaux sociaux.
Ok, bah, super. J'avais juste mis encore une petite question qui me trottait. Je voulais savoir si sur scène vous étiez juste tous les deux ou bien accompagné d'autres musiciens.
Alors, une seule fois, on a fait une exception en ayant. Non, deux fois, on a eu un invité d'un autre instrument. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très important dans ce projet de garder le défi de jouer tous les rôles d'un groupe, mais à deux. Dans l'idéal, on essaye vraiment de rester à deux et puis de. Notre but ultime, c'est vraiment que pendant le concert, personne ne se dise qu'il manque quelque chose ou qu'il manque un élément.
Ok, joli.
Joli, ouais.
Est-ce que ça ne vous ferme pas quelques portes, en fin de compte, au niveau musical?
Peut-être. Effectivement, mais je ne suis pas sûre, parce que ça amène quand même quelque chose aussi, une identité qui est assez forte. On essaie de se démarquer comme ça, enfin, on connaît qu'il y a une concurrence immense. Mmh. Après, effectivement, peut-être de se projeter sur des immenses scènes de festivals, si on a déjà cette ambition-là. C'est peut-être un peu flippant. On aurait peut-être tendance à se dire, en tout cas moi, genre, oulala, je sais pas si j'arriverais à emballer toute une immense foule à nous deux, quoi. Mais je pense qu'on est capable.
Ouais, je pense que oui. Ouais, ça nous pousse à réfléchir différemment aussi. C'est sûr qu'à cinq musiciens, on peut se reposer sur plein d'autres musiciens. Puis là, on est obligé d'être plus mature aussi dans la création des morceaux, de réfléchir aussi à la scène. Par exemple, des morceaux où on a rajouté des couches, où Jessana fait du beatbox avec une loop station qui répète en boucle ce qu'elle a enregistré, elle rajoute du kalimba. On doit aussi réfléchir à la structure pour qu'à un moment pertinent, elle puisse l'enlever, la rajouter, pour que ce ne soit pas monotone. Mmh.
Mmh. Ouais, c'est des sacrés challenges, en fait. Tu dois penser à tout ça pour coordonner le tout. Mmh.
Tu repenses presque la musique, finalement.
Et tout ça à deux, c'est toujours mieux.
Oh, comme il dit, ça finit ça.
Qui enchaîne là.
Non, c'est vrai que heureusement que tu as dit quelque chose parce que là.
mais merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus que ça continue?
Ouais, ça continue. Ouais.
Ouais.
Voilà, plein de bonheur et plein d'amusement sur nos prochains concerts.
On vous suivra de près. Avec. C'était une belle découverte.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir.
Ouais, on l'apéro.
On vous redira au revoir tout à l'heure. Juste maintenant, c'est le moment tant attendu.
Oui. Surprise
de Pierre Reich.
On n'a pas de petite musique qui fait des nénés.
Non, alors on peut continuer comme ça.
Voilà.
Voilà, c'est bon.
Ah bah voilà. Suffisait de demander. Et
c'était ça le petit jingle d'intro de.
D'accord, ouais. C'est d'accord. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, Pierrick, c'est à toi.
Donc en fait, ma surprise, d'habitude, la chronique, c'était de chroniquer un groupe ou une musique, etc. Et j'ai eu envie de casser les codes. J'ai eu envie de parler de quelque chose d'actualité en cette période d'Halloween, en cette période de fête de la Toussaint.
Ouais.
Moi, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous. Je vais vous parler de la mort.
Oh, cool. Pardon. C'est engageant.
Eh oui. On est mortel et l'on est mortel. En avoir conscience constitue déjà une belle approche face à l'inéluctable. Je ne vais pas vous faire l'apologie de la mort au travers des religions, vu que, à mon sens, toutes les religions sont mauvaises, étant donné que chacune d'elles prétend avoir la meilleure conception en la matière que l'autre. Faire part de convictions personnelles, par contre, me paraissait bien plus probant. Pourquoi le trépas nous paralyse? Qu'est-ce qui arrive lorsque la lame acérée de la faucheuse nous atteint? Eh bien, on n'en sait rien. Et c'est là l'un des aspects qui nous effraye. L'humain peut se targuer de comprendre et élucider beaucoup de mystères durant sa vie, mais ce qui se passe après la mort le tient en échec. Est-ce que c'est frustrant et effrayant de ne pas savoir? Je réponds non, c'est très bien ainsi. Certaines personnes, malgré leur état de mort provisoire, eurent une incroyable capacité de rétrocognition ou d'omniscience. Mais tout cela reste au conditionnel et il est compliqué pour ces gens-là de nous décrire l'indicible. Notre ignorance face à l'au-delà est à mon sens salutaire. La mort n'est pas une absence, mais juste une différence de présence. Je le crois intimement. Et donc, je n'éprouve aucune angoisse à devoir un jour franchir ce cap final. Mesdames et messieurs les crâneurs, les guindés, les hautains ou autres arrogants, les hommes et femmes au physique avantageux ou les intelligents qui en ont conscience, sachez que face à la mort, nous sommes tous égaux. Eh oui, désolé. Couché sur une table de préparation de mise en bière, tout le monde est traité à la même enseigne. Une bouche qui, sans mentonnière, ne saurait se tenir fermée, une peau froide, jaunâtre, un corps à la rigidité tenace expulsant des fluides par des orifices habituellement étanches. On ressemblera tous à ça. Plutôt pétrifiant, n'est-ce pas? Imaginons donc le noble qui a toujours couru après l'argent, pensant que son porte-monnaie le suivrait dans sa dernière demeure de sapin, être tout à coup sur le même pied d'égalité qu'un impécunieux. Plus de beau, plus de moche, de noir ou de blanc, c'est égalité pour tous. Je reste intimement convaincu que ceci fait aussi partie des craintes des femmes et hommes face à la mort. Se retrouver comme tout le monde, sans distinction. Nous sommes conditionnés pour être toujours là ou le meilleur. Mais mourir constitue un échec. Et l'humain ne tolère plus les déconvenues. Si nous étions plus égaux de notre vivant, être tous égaux lors de notre dernier souffle nous poserait beaucoup moins de problèmes. J'aime la mort. Ouais, je vous le redis encore une fois, j'aime la mort. J'entends déjà des voix hostiles me vociférer que je suis insensé, irrationnel, voire écervelé. À mon sens, notre vie est trop souvent constituée de faux, de semblants, de mensonges et de paraître. Mais par contre, quand on est mort, on est mort. Ne pensez-vous pas qu'à ce titre, la mort possède cette qualité de franchise que la vie a perdue? Chers auditeurs, je vous souhaite donc une belle journée, une belle vie, mais une belle mort.
Merci. Bravo, bravo, bravo.
Il y a aussi d'applaudir.
Alors, Comment ça se fait que tu parles de la mort comme ça?
Je me suis dit que c'était un sujet hyper tabou, on en a peur, on veut pas en parler. Et puis c'est cette période d'Halloween et de la Toussaint, et je me suis dit non, moi j'ai envie d'en parler, j'ai envie de dire ce que j'en pense. Et je me suis dit que c'était une jolie tribune d'être là derrière un micro de radio pour le dire. Alors effectivement, ça contraste avec les moments de joyeuseté intense qu'on a passé cet après-midi, mais j'avais envie de le dire et je trouvais ça plutôt important. Arrêter d'en faire un tabou, finalement, c'est le truc le plus prévisible du monde.
Et la mort fait partie de la vie.
Sans vie, il n'y a pas de mort.
Mm-hmm. C'est ça. J'ai aussi envie de dire, après la mort, après la vie, il y a la vie, en fait.
C'est ça.
J'ai
adoré plomber l'ambiance.
La mort, ce n'est pas une fin, finalement. Non, au contraire, ça permet de tout se remettre sur une même ligne, en fait.
C'est exactement
ça, on est tous égaux, et au lieu de se diviser, on devrait tous se rassembler.
C'est exactement ce principe-là, voilà, que j'essayais de mettre en lumière.
D'accord, et ben merci beaucoup. Alors,
tu dis plus rien.
Moi, je proposais à Jessana de nous expliquer un truc rigolo, comme ça en plus.
Non, parce que moi, j'ai pas que le côté clown. Sinon, ça m'a apaisé. J'ai beaucoup apprécié ce que t'as dit, ce que t'as raconté. C'est des paroles qui me parlaient aussi personnellement. Donc, plutôt que ça m'a, un peu fait revenir un peu sur ma vie là du moment, effectivement.
D'accord, merci.
Prendre bien conscience de où je suis.
Bien. Du coup, il est venu l'heure, hélas, trois fois hélas, de se quitter, comme toutes bonnes choses ont une fin, hélas. Mais c'est la vie. Merci en tout cas à vous, oh my dear, d'être venu aujourd'hui pour cette émission CO2 sur Alp Radio.
Et c'est pas tout à fait terminé, puisque vous allez nous réserver un showcase assez prometteur.
Avec une faculté d'adaptation hors norme, il faut le souligner.
Faut que j'aille me chauffer. Oui, parce que là, on est un petit peu froid. Hein,
c'est bien.
Tu as jeté un froid.
Oui.
Personne n'aurait bien aimé s'exprimer sur ton sujet, Pierre.
C'est pour ça que j'ai fini par une question et que tout est ouvert.
Voilà, on regardera la prochaine émission CO2.
Oui.
Si je suis là.
Si tu es là. Si tu n'as pas été viré par la direction.
Voilà, exactement.
Enfin voilà, oh my dear, merci beaucoup. Merci pour le showcase que vous nous réservez. Et puis, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de votre projet, oh my dear, et de vos projets solo respectifs. Bravo en tout cas, continuez comme ça. Et puis, nous, on se dit au revoir.
Merci à tout le monde, toute l'équipe.
Merci à tous.
Vous tous, et puis Jonathan qui était derrière la vidéo pour nous faire de belles images. Yann également avec son appareil photo. On retrouvera les vidéos sur www.alpradio.ch, les photos également. On a une page Facebook, donc voilà.
Vous pouvez pas nous louper.
À dispo, voilà.
Voilà, exactement. Profitez bien, amusez-vous bien, et puis je crois qu'on se réentend jusqu'à Noël, sauf erreur, ou bien plus.
Alors, le prochain rendez-vous de CO2, ce sera au mois de février.
Voilà. Alors, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année.
Et oui, à l'année prochaine.
Ouais.
À l'année prochaine, et puis on se quitte en musique.